Et salut à tous, et bienvenue dans Parlons Ciné, l'émission on évoque l'actualité et les sorties ciné de la semaine sur Radio Campus. À votre programme, pas d'actu ciné, ni nos sorties de la semaine, car on est en live au Chaudron, la scène étudiante du Crous, à la résidence Castillon, juste à côté de Radio Campus du coup. Et à l'occasion de la rétrospective consacrée à Feu David Lynch, en ce moment au Ciné Saint-Leu, on a décidé de vous parler d'un film un peu mal aimé dans la filmographie du maître derrière des chefs-d'œuvre tels que Mulholland Drive, Elephant Man, Lost Highway ou encore la série Twin Peaks, dont il va être question un petit peu aujourd'hui, puisque on va parler de Twin Peaks, Fire Walk With Me, préquel aux deux premières saisons du show co-créé avec Mark Frost, et véritable épisode charnière avec l'incroyable saison 3 que nous a offert le cinéaste en guise d'œuvre testamentaire. Un film qui explose littéralement le cadre de la télévision pour transposer cet univers télévisé lynchéen sur grand écran pour une réception houleuse à l'époque de sa présentation au Festival de Cannes, raison pour laquelle on tente durant ces 30 minutes de live de réhabiliter cette grande œuvre avec notamment Adam, journaliste, pour la 7ème illusion. Salut Adam.
Bonsoir. Salut Gaël, comment ça va?
Et ben ça va très bien.
C'est l'habitude de dire bonsoir.
Donc, on a l'habitude d'être dans le studio à dire bonsoir et tout. Et à côté de nous, il y a quand même, il faut peut-être le dire un petit peu quand même, Thomas Roland de la revue Prime Cut qui n'a toujours qu'un seul numéro. Bonjour Thomas.
Bonjour messieurs.
Tu vas bien?
Ça va très bien.
Ça va très bien. Et nous avons également à côté de nous Jonathan du podcast Black Lodge. Salut Jonathan.
Bonsoir à vous. Bah merci
de te présenter.
De me présenter.
Vous êtes quand même assis à côté de nous, donc je vais pas.
C'est ça, c'est par pure politesse.
Et puis Black Lodge, c'est quand même en rapport avec le thème.
C'est surtout pour vous surveiller.
Bah oui, voilà. Et du coup, nous sommes à 4 du coup durant cette petite demi-heure où nous parlons ciné. Mais tout d'abord, pour commencer cette émission, une question s'impose et je vais la poser en premier temps à Adam quand même. Voilà, évidemment. Oh, wow. Adam, j'ai une question à te poser.
Oui.
Une question assez difficile, en vrai.
Vas-y.
Qui est David Lynch?
Vaste ouais, sujet. David Lynch, à part le fait qu'il soit né le 20 janvier 1946, de famille artiste, peintre, etc. etc. Cinéaste qui s'est fait connaître notamment avec Eraserhead en 1977, film indépendant, voilà, son premier film, bricolé, fait main, même s'il sera plus connaître après avec Elephant Man, sorti en 1980. Aussi. Mais là, l'intérêt, c'est plus de revenir en fait à du coup, qu'est-ce qui a conduit à la fabrication de Twin Peaks Fire Walk With Me.
Oui,
du coup, revenir très rapidement sur la production de la série Twin Peaks, quand même. Quand Twin Peaks démarre, déjà David Lynch a une sacrée carrière derrière lui, parce qu'il a. Il a connu malheureusement la production très compliquée de Dune sortie en 1984.
Oui, un peu pillé par Dino De Laurentiis, notamment le producteur, c'était très compliqué.
Ça a été très compliqué, mais après il est revenu célébré par la critique avec Blue Velvet en 1986. Et après, en même temps qu'il y a Twin Peaks qui démarre du coup sur la chaîne ABC, il a préparé, il a fait un film qui s'appelle Sailor et Lula, avec lequel il repart avec la Palme d'Or au Festival de Cannes de 1990, récompense suprême. Et on en parlera du Festival de Cannes parce qu'il a une histoire très compliquée.
C'est
amour-haine. Du coup, la série Twin Peaks fait son démarrage sur la chaîne ABC le 8 avril 1990, avec un premier épisode qui marque les téléspectateurs. On est une révolution narrative, visuelle aussi, dès ce générique impactant, mystérieux, cryptique, et ce corps retrouvé au bord d'un lac,
celui
de Laura Palmer, jeune femme blonde, retrouvée assassinée. Qui l'a assassinée? Qui a tué Laura Palmer? Phrase emblématique de la série culte. Du coup, comme tu l'as dit, évidemment créée par David Lynch et co-créée avec Mark Frost.
Faut pas oublier.
Il faut pas oublier. Et du coup, c'est un vrai succès. Pour le coup, les gens sont fascinés, veulent découvrir ce que c'est. Et en fait, dans Twin Peaks, on suit l'agent du FBI, Dale Cooper.
Incarné par Kyle MacLachlan, du coup.
Oui, voilà. Merci d'avoir prononcé son nom de famille, parce que chaque fois,
Kyle MacLachlan, je crois que je le dis bien.
Kyle MacLachlan.
C'est un peu dire.
On dirait Clachlan, bref.
Clac, clac.
voilà. Une première saison très acclamée. Malheureusement, après, il y a une production de saison 2 qui est beaucoup plus compliquée.
Oui.
Qui est beaucoup plus compliqué parce que, notamment, il y a des pressions de producteurs qui demandent à David Lynch de commencer à dévoiler les pistes sur qui a tué Laura Palmer. Et
c'est bah, quelque chose que Lynch ne veut pas à la base.
Que Lynch ne veut pas parce qu'il a un plan tout préparé aussi. En fait, ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est explorer en fait, ce mystère qui entoure cette ville, qui entoure aussi le mal qu'elle engendre. C'est ça, toute la puissance de Twin Peaks. Et du coup, en fait, bah, il cède aux pressions, moi, un peu en faisant un coup un peu tordu. Il révèle en épisode 7 de la saison 2, alors que la saison est prévue sur 22 épisodes. 7e épisode, il dévoile qui a tué Laura Palmer, mais je vous le dirai pas.
On le dit pas ou on spoil? Parce que là, il faut peut-être spoiler un petit peu quand même. Vous en pensez quoi, messieurs? Est-ce qu'on spoil?
Est-ce qu'on spoil?
Quand même, Twin Peaks, il y a prescription quand même un petit peu.
Non.
Non, on ne spoil pas. D'accord, bon,
on spoil pas.
Écoutez,
ouais.
On spoil pas qui voilà. A tué Laura Palmer.
Ce sera le mystère.
Ce sera le mystère.
Mais voilà, du coup, David Lynch se pousse un peu lui-même à travers la porte. Oui.
C'était juste pour... tu parlais un petit peu des problèmes de production de la saison 2 oui. De Laura Palmer. Il y a aussi un événement qui a impacté la diffusion de la série. Il y avait également la guerre du Golfe.
Oui,
la guerre du Golfe a interrompu la diffusion de la série à l'époque. Et ça a instauré... Il y avait déjà une forme de lassitude justement du côté des spectateurs concernant l'intrigue principale. Et je pense que ça a dû avoir des influences justement sur la précipitation du dénouement.
Bah, c'est notamment...
Heureusement qu'il est là, j'avais dit.
Oui. Voilà. Bah, c'est surtout en fait le producteur à l'époque de ABC Entertainment, Bob Iger, qui pousse un peu, voilà, qui avait poussé le fameux Bob Iger.
Celui qui fout le bazar chez Disney.
Voilà. Et du coup, bah, David Lynch pousse un peu lui-même à travers la porte et bah, les producteurs sont un peu contents quand même qu'ils partent. Oui. C'est un peu et voilà, il en sort frustré, mais. Du coup, la série est arrêtée, coupée en fin de saison 2, bah, faute d'audience. Et du coup. Et
elle se termine sur un cliffhanger absolument frustrant.
Frustrant, ouais.
Il faudra des années avant qu'une saison 3 voie enfin le jour. Ça sera en 2018, il me semble.
2017.
2017, pardon, ouais. Excuse-moi.
Entre mai et septembre 2017. Voilà. Et du coup, bon, voilà. David Lynch est frustré. Et du coup, bah, finalement, le contact, notamment via la société de production CB2000. Fondée par Francis Bouygues et du coup bah, à la base c'était une trilogie de films qui était prévue sur notamment le mystère de la Black Lodge et voilà et en fait bah, la production va être aussi compliquée pour pas changer voilà quoi et du coup bah, Mark Frost s'en va parce qu'en fait on sait pas si ça va se passer avant après finalement Lynch opte pour parler du mystère entourant Laura Palmer. Ce qui donne du coup Twin Peaks Fire Walk With Me qui se concentre sur les 7 derniers jours avant la mort tragique de Laura Palmer.
Et c'est même quelque chose qui donne le titre français du film, puisque le film est rebaptisé en France Twin Peaks, les 7 derniers jours de Laura Palmer.
Oui, et heureusement ils ont renommé
oui,
après
parce que c'est pas un très bon titre quand même.
Non.
Un petit peu. Ça va, on est plutôt. Vous en pensez quoi, vous, messieurs? Est-ce que vous trouvez qu'on est dans le vrai là pour l'instant sur ce qu'on dit sur Lynch ou sur Twin Peaks? Parce qu'on a quand même un expert de la Black Lodge qui est là, donc je préfère. Parler avec prudence, j'ai envie de dire. Tu en penses quoi, Jonathan?
Alors, au niveau du scénario, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parcourir cette source. Hein, je pense qu'il a dû inspirer. Je pense que ça a dû être écrit après le film. Il y avait la fille de David Lynch, Jennifer Lynch, qui avait écrit le journal secret de Laura Palmer, donc qui reprend pas mal d'éléments justement de l'intrigue du film. Mm-mm.
Merci pour cet élément. C'est vrai qu'il y avait ce livre qui était super intéressant, il paraît-il. Donc, oui. Et bah écoutez, maintenant qu'on a un peu contextualisé, je vous propose qu'on rentre littéralement dans le vif du sujet. Parce que maintenant, on passe au sujet principal de l'émission. Il s'agit bien sûr de Twin Peaks, Fire Walk With Me, bande-annonce.
A girl has been murdered, 17 years old.
Can you tell me who it was?
Laura Palmer.
He comes into my window at night.
This kind of fire's very hard to put out. What
tender boughs of innocence burn first. And then all goodness is in jeopardy.
Oh my God. What did you do? Ah!
Diane, this case gives me a strange feeling.
La mort mystérieuse de Teresa Banks dans la tranquille petite ville de Deer Meadow va donner bien du fil à retordre aux agents Dale Cooper et Chester Desmond qui vont mener une enquête en forme de charade et découvrir que bien des citoyens de la ville sont impliqués dans cette affaire. Un an plus tard, ce sont les 7 derniers jours de Laura Palmer qui se termineront par la mort brutale de cette dernière, annonçant ainsi le début de Twin Peaks, le soap opera. Mais du coup, Adam, pourquoi Fire Walk With Me est-il un film aussi mal aimé et reçu dans la filmo de Lynch?
C'est pour ça qu'en fait, j'avais pas. Moi, j'ai coupé brutalement en fait mes explications sur la production du coup du film. Le film s'est produit, ça a été un peu compliqué. Oui. Voilà, des tournages, des acteurs pas disponibles. Mmh. Bref. Mais surtout, quand le film est projeté à Cannes en 93. C'est une sacrée douche froide. Le film se fait huer coup au Grand Théâtre Lumière, et même le lendemain en salle de projection presse, conférence de presse, ça hue encore également. Les questions sont très froides, les journalistes sont pas du tout réceptifs à la chose. On trouve le film malsain, pervers. Que David Lynch s'amuse à torturer ses personnages. En fait, on lui dit. Vous aimez cet univers et pourtant vos personnages sont si morbides, si dépressifs. Et ça a donné cette réputation de film un peu mal aimé, mais aussi surtout, c'est un film qui se situe, qui en fait entre dans ce champ de finalement on parle de ce qui s'est passé avant le meurtre emblématique, la mort emblématique de la série. Donc c'est toujours un peu, c'est toujours ces histoires de préquelles. Oui. Finalement on touche au sacré, on touche à peut-être des choses qu'on veut pas parler, qu'on veut pas révéler, mais moi je pense que c'est un film justement qui va plus loin que juste dire déjà qu'a tué Laura Palmer en soi, enfin le répéter dans le film, mais surtout en fait c'est parler du mal qui entoure l'Amérique. Oui. Ce mal qui est chez Lynch souvent dans les banlieues, les banlieues très lumineuses qu'on voit notamment dans Blue Velvet déjà. Et à un moment, en fait, on part dans l'obscurité, d'où cette Black Lodge, mais aussi la forêt, comment est filmée la forêt dans la série, et même dans le film aussi. En fait, tout va bien dans la lumière du jour, et après, quand la nuit commence à s'abattre, ce sont les secrets que les habitants cachent aussi, qui se dévoilent. Et en fait, Lynch fait un espèce de mélange de films. Qui parle du deuil de cette jeune adolescente qui ne sait pas où elle va. C'est une Laura Palmer très torturée qu'on a en face de nous. Brillante interprétation de l'actrice.
Incroyable. Cheryl Lee est exceptionnelle dans ce film. J'ai l'impression qu'elle est encore plus exceptionnelle dans le film que dans la série. Bon, c'est pas ça parce que je dis ça parce que
c'est un peu. J'avais pas fait la vanne, mais c'est un peu un cadavre.
mais même ce qu'on a pu voir après par la suite dans la saison 3 notamment. Enfin, mais je trouve que il y a vraiment un truc dans le film où notamment David Lynch. Alors, tu disais comme quoi il a été très critiqué assez vivement sur le fait que.
Même encore aujourd'hui, c'est un peu une douche froide. Hein. Commence à être réhabilité.
Mais c'est pas celui qui est souvent dans le top 3 de la film de Lynch, genre les top et tout. Pour moi, c'est le cas. Hein. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est un de ses meilleurs, véritablement. Ce qui est un truc à affirmer un peu difficilement, parce que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Mais c'est un film surtout où David Lynch assume en fait de dépeindre une Laura Palmer qui est beaucoup moins, a priori, angélique. Que ce que pouvait le laisser entendre la série, en fait. On nous montre que c'est quelqu'un d'assez torturé, on nous montre aussi qu'elle a une certaine liberté sexuelle complètement assumée, qui en plus, pour les années 90, c'est quand même quelque chose qui est encore prude. Hein, donc finalement, c'est quand même très... c'est osé, c'est assez radical. C'est un film qui fait peur. Il faut quand même le dire, parce qu'il est terrifiant. C'est-à-dire que moi, je trouve, pour l'avoir vu en salle en version restaurée, je trouve vraiment que le personnage de Bob qui incarne le mal déjà oui. dans la série et qui est déjà bien flippant, je trouve que dans le film, il se surpasse. C'est-à-dire que vraiment,
qui est né en plus d'un accident d'ailleurs, ce oui. personnage est né d'un accident.
C'est un assistant décorateur, je crois, oui. à la base, l'acteur qui joue Bob. Ouais. Je ne sais plus son nom, mais
et du...
Franck Silva. Merci beaucoup.
Franck Silva.
Heureusement que j'attends.
Ouais, voilà, c'est devenu le grand mal de Twin Peaks. Et je trouve encore, l'anecdote folle.
Fou. Il a vu le mec dans son tournage, il a fait « Toi, tu seras le mal ».
Mais c'est aussi en fait, un film qui joue beaucoup sur les codes couleurs, encore oui. plus que dans la série. C'est-à-dire, on a en fait, cette espèce d'oppression en fait, qui est le bleu, qui représente un peu l'idée de la mort. Le bleu représente la mort, le blanc, la libération. En fait, bah, souvent, elle va prendre des substances illicites. Et en fait, bah, c'est souvent ces couleurs blanches qui reviennent, notamment avec cette scène finale emblématique. Oui. Qu'on dévoilera pas pour,
non, bien sûr,
pour les spectateurs qui vont le découvrir soit ce soir soit mardi oui. Voilà, mais c'est un film qui joue sur ses codes couleurs, sur une espèce ouais, d'oppression familiale, oppression patriarcale aussi, parce qu'elle a beaucoup la pression de famille. Il y a cette scène en boîte de nuit notamment oui. aussi qui est à la fois étouffé par un son qui est omniprésent et en même temps en fait Laura Palmer qui essaie de se libérer en se faufilant dans cette boîte de nuit, puis essaie de donner libre cours à sa jeunesse et aussi à sa liberté sexuelle comme tu le disais oui. Ambitieuse pour l'époque et que justement ça a défrayé la chronique cannoise.
Oui, c'est qu'à le dire oui pour le coup oui. Mais et il y a aussi du coup le fait que du coup on va pas révéler évidemment la scène finale, mais il y a quelque chose de christique. Il en fait définitivement un oui. personnage vraiment christique pour le coup. Et il y a aussi le fait que je parlais tout à l'heure dans l'introduction que c'était presque un épisode charnière entre les deux premières saisons et la saison 3, parce que véritablement le conseil qu'avait donné Lynch notamment à l'époque où, parce que du coup il est revenu à Cannes avec la saison 3 puisqu'il a ouais. quand même présenté les deux premiers épisodes je crois sous la forme d'un film, d'un pilote vraiment de 2 heures je crois, et en fait, il avait bien précisé qu'il fallait absolument avoir vu les deux premières saisons et Twin Peaks Fire Walk With Me pour, en quelque sorte, comprendre la saison 3, même s'il a comprendre, je trouve que c'est bien un grand mot.
Oui, c'est un grand mot.
C'est
évidemment.
Une œuvre qui a tellement, de libre interprétation possible à elle-même qu'on n'a pas fait encore le tour et on est loin, je pense.
Oui.
Mais voilà, mais du coup, le film prend encore un autre sens, je trouve, avec la saison 3, du coup. Mm. On va pas révéler pourquoi, bien sûr. Je pense que tu vois de quoi je parle.
Oui, non, bien sûr.
Voilà, ouais. Mais je trouve que...
Ouais, mais ça. Je trouve aussi que très rapidement, je trouve aussi que c'est un film en fait qui marque sa tangente aussi avec Lost Highway en fait.
Oui.
C'est-à-dire
oui.
que sans Fire Walk With Me aussi cette espèce de frustration et aussi de ce qui va s'en suivre, parce que du coup il va avoir un passage à vide. Il reviendra qu'en 97 avec Lost Highway.
Ouais.
Donc quand même, c'est quand même
on sent que ça l'a peut-être impacté quand même beaucoup, je pense.
Ça l'a beaucoup impacté ouais. parce qu'en fait ça l'a beaucoup attristé, parce que c'est un film auquel il a mis beaucoup oui. de lui-même
ah oui.
De ce qu'il voulait raconter, et du coup en fait bah on retrouve en fait de en plus Lost Highway a déjà été diffusé au Saint-Leu, donc oui. en fait voilà, si vous voyez Fire Walk With Me, en fait vous allez retrouver déjà des traces de Lost Highway et même de Mulholland Drive, qui était à la base un pilote de série télé également,
oui.
qui fut transformé en film, voilà, et qui est le film emblématique qu'on connaît tous. Et cette fois, il a regagné les faveurs de Cannes avec le prix de la mise en scène.
Oui, il était temps, j'ai envie de dire un petit peu quand même.
Ouais, donc vraiment, c'est un film de transition chez Lynch et un film un peu charnière oui. dans sa filmo. Quoi.
Très bien, bah merci beaucoup. Thomas et Jonathan, est-ce que vous avez des trucs à dire sur Twin Peaks Fire Walk With Me ?
Alors, on ne peut pas parler de ce film sans parler de la partition musicale de Angelo Badalamenti.
Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Mais
voilà, donc déjà qui était excellente, extraordinaire dans les deux premières saisons de Twin Peaks. Oui. Et moi, je trouve que dans Fire Walk With Me, vraiment, se surpasse.
Oui, tout à
voilà.
fait.
Voilà. Donc, tu reparlais justement de la scène dans la boîte de nuit. La musique de cette scène est une sorte de jazz un petit peu malade, hyper malsain. Enfin, c'est, oui. ça joue, ça rajoute beaucoup dans l'ambiance de cette scène. Voilà.
Oui. C'est un morceau de David Lynch.
Oui, 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 il avait un groupe justement qui s'appelait Fout Gang, qu'il avait cofondé avec Angelo Badalamenti.
Comme quoi, il était vraiment multifacette, quoi. Je veux dire, musicien, peintre, enfin.
Même youtubeur.
Même youtubeur, oui, tout à fait. Non, mais et présentateur météo aussi à 6 heures perdues, oui, pendant le confinement. C'était incroyable, ça aussi.
T'as un truc à dire, Thomas, sur Twin Peaks Fire Walk With Me, brièvement?
Rien de plus que ce que vous avez dit. Je pense que vous avez maîtrisé mieux le sujet que moi.
Oh, bah c'est gentil, merci beaucoup. Oh. C'est un compliment de ta part. Là, vraiment, je prends ça comme un vrai compliment. avant de se quitter, s'il fallait retenir un film de David Lynch, ça serait lequel?
À part Fire Walk With Me, parce que c'est mon préféré. Ouais, voilà. Bah, je dirais Lost Highway, du coup, vu que c'est sa continuité, en fait. Parce que il y a en fait cette construction très particulière dans Lost Highway qui est évidemment c'est une boucle, c'est un nœud infini, mais c'est surtout un film qui est construit en deux parties, en fait, qui sont totalement inversées. Et même en fait, si je pourrais aller plus loin, c'est quasiment la construction inverse de Mulholland Drive pour moi, mais voilà.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que en fait, là où on a les ténèbres au début de Lost Highway, on a la lumière dans Mulholland Drive et inversement. Même si on a aussi les ténèbres dans les deux parties, mais il y a l'apparition des ténèbres. Et en fait, la particularité de Lost Highway, c'est que il y a déjà les ténèbres qui sont déjà là au début, alors que dans Fire Walk With Me, il y a ce petit début, on pourrait se dire, j'ai l'impression de regarder un film un peu teenage, un peu de John Hughes, on arrive au lycée, et finalement après on dérive sur un film sensoriel, et c'est déjà, et en fait pour moi il le développe encore plus dans Lost Highway, c'est une espèce de sensation qu'on est perdu, on ne sait plus où on est, l'Amérique est un pays qui est profondément malade, il abrite le mal en soi. Et du coup, en fait, il y a cette espèce de perversité qui l'entoure. Et en fait, pour moi, c'est voilà. Pour moi, en fait, même je dirais qu'il y a une espèce de trilogie, même fantôme, avec du coup Fire Walk With Me, Lost Highway et Mulholland Drive. Une espèce de trilogie des ténèbres. Voilà, je vais l'appeler la trilogie des ténèbres.
La trilogie des ténèbres.
Voilà, je dépose le titre.
David Lynch. Brevet déposé. Voilà, ça y est.
Voilà, brevet déposé.
Sur Radio Campus. Messieurs, vous avez un David Lynch préféré, peut-être quand même? Ou Jonathan?
Alors, forcément, moi, mon préféré, c'est Fire Walk With Me, mais j'ai compris qu'il fallait dire un autre film. moi, je parlerai peut-être de celui qui m'a le plus marqué. Alors, je ne dis pas forcément qui m'a le plus marqué en bien, mais qui m'a le plus apporté des sensations quand j'en suis sorti de la projection à l'époque. C'était Inland Empire, que j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était un film. C'est un film qui ne laisse pas indifférent, c'est moins qu'on puisse dire.
Oui, je l'ai découvert récemment. Je suis allé le voir justement dans le cadre de la rétro au Ciné Saint-Leu. Il passait en premier à 16h lundi, samedi dernier, et j'y suis allé et c'est une expérience.
C'est exactement
cette esthétique DV, la caméra DV.
C'est exactement ça. Pour le coup, c'est un film dont je retiens, c'est la sensation que j'ai eue quand je suis sorti de la salle.
Oui. Mais on pourrait même presque dire que c'est un peu une suite spirituelle à Mulholland Drive. Un petit peu, tu vois. Mais je trouve que c'est. Mais dans un truc encore plus radical. Qui dans la sensation fait froid dans le dos parfois. Je trouve que c'est un film aussi qui fait très peur. C'est un des cinéastes pour moi qui fait le plus peur, David Lynch, hein, véritablement. C'est-à-dire que ces films pour moi me terrifient. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc où c'est de l'ordre du sensoriel du coup, et vraiment ce genre de film qui te colle des frissons, mais des vrais frissons d'effroi. Bah, pour moi c'est le cas. Il y a un cri de Laura Dern dans Inland Empire qui est particulièrement flippant.
Et je pense aussi parce que David Lynch fait peur parce qu'on sait d'où on part.
De ses cauchemars.
Ouais, voilà. Avant qu'on commence à dériver dans les ténèbres et la folie. Mmh. En fait, chez David Lynch, avant que ça devienne bizarre et qu'on comprenne rien, entre guillemets, en fait, on sait d'où on part avec lui.
Oui.
C'est pour ça, d'où la peur, je pense qu'elle naît aussi là. Et c'est ça qui est fascinant chez lui et qui nous a toujours apporté dans toute son œuvre.
Mais c'est ça qui, justement, fait que... voilà, il met vraiment en scène le cauchemar, quoi. Et dans tous ces films, t'as un moment donné vraiment où le cauchemar il t'habite vraiment, quoi. Moi, notamment, du coup, au passage, je vais citer aussi mon préféré. Ce sera pas du tout original, mais pour moi, c'est Mulholland Drive parce que pour moi, c'est vraiment. Je pense que c'est honnêtement un des plus grands films en fait de ce siècle, en fait. Littéralement, genre vraiment dans le sens où. C'est tellement une œuvre somme aussi dans sa filmo du côté du cinéma, je dirais, à l'époque déjà. Et cette manière de dépeindre Hollywood comme un espèce de grand cauchemar hollywoodien absolument tétanisant. Cette scène, ce jumpscare absolument terrifiant de la dame derrière le diner, voilà, où c'est littéralement, il remet en scène encore une fois le cauchemar. Et en même temps, c'est un film qui te perd. C'est un film où c'est un peu comme Lost Highway, du coup, c'est très difficile avec les dédoublements et tout ça de s'y repérer. Quoi. C'est un labyrinthe vraiment. Et encore aujourd'hui, quand tu le revois, je trouve que c'est un film où tu peux encore le voir de différentes manières. C'est-à-dire que tu peux vraiment imaginer une toute autre histoire à chaque fois que tu le revois, en fait. Ça en fait une œuvre infini, quoi. Et toi, Thomas?
Je pense que je crois qu'il y a encore des films qui passent de David Lynch au ciné Saint-Leu.
Oui, évidemment, oui. J'allais y venir. Du coup, ce soir notamment, il y a Twin Peaks Fire Walk With Me, tiens, justement à 20h45 au ciné Saint-Leu. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi l'occasion de pouvoir découvrir ce film, oui. Si vous n'avez pas encore l'occasion, et c'est un film très important, sa filmo, donc allez absolument le voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi dans les prochains films qui passent? Voilà, on a aussi Blue Velvet le lundi 31 mars à 20h30. Ah oui, Twin Peaks Fire Walk With Me repasse aussi mardi à 17h. Allez-y surtout. On a Sailor et Lula qui passe mercredi à 18h et le vendredi 28 mars à 20h30. Elephant Man le 3 avril à 20h et le 5 avril à 16h30. Et Eraserhead le 4 avril à 21h et le 7 avril à 18h30. Voilà. Donc vous avez jusqu'à peu près début avril pour continuer à découvrir des œuvres de David Lynch qui laisse derrière lui une œuvre tellement puissante, tellement infinie, j'ai pas d'autre mot, que je pense qu'on peut encore passer littéralement des années à analyser son œuvre. Je sais pas si c'est d'accord avec moi.
Je pense en fait on n'aura jamais fini de le décrypter. Jamais.
Je pense aussi. Voilà. Et bah écoutez, je trouve que c'est une belle manière de conclure sur The Voice of Love. Voilà, qui est un peu le thème ultime de Twin Peaks Fire Walk With Me, qui est magnifique. J'entends beaucoup parler de ce thème à chaque fois et on me dit toujours que c'est le thème qui émue le plus, littéralement, dans ce film. Je pense à une personne en particulier qui m'en a parlé récemment et qui nous écoute sûrement. Donc voilà. Merci à vous. Donc, merci à Adam d'avoir été de nouveau fidèle à son poste. Merci.
Mais je t'en prie.
C'est toujours un plaisir.
Bravo ! Bravo !
Merci à Jonathan de la Black Lodge d'être venu nous passer nous voir quand même. Oh merci, c'est beaucoup trop. Merci à Thomas Roland de Prime Cut d'être toujours là. Merci à la technique, à Jean-Marie qui était à la technique quand même. Faut l'applaudir s'il vous plaît. Et du coup, au passage, on en profite aussi pour donner un peu nos horaires à nous. C'est-à-dire que Parlons Ciné, c'est une émission qui revient sur l'actualité et les sorties ciné de la semaine. On est là tous les vendredis à 20h. 19h, excusez-moi, pardon, 20h, c'était avant. 19h sur Radio Campus, le vendredi soir. Et une fois par mois, on est là le lundi soir aussi, à 20h cette fois-ci, oui. Où on fait une mensuelle où on revient sur la carrière d'un cinéaste. Et la prochaine mensuelle, du coup, c'est un peu particulier, c'est pas sur un cinéaste, c'est sur une prélogie. On parlera de la prélogie Star Wars à l'occasion de la ressortie de La Revanche des Sith, fin avril. Voilà,
voilà, petit teasing.
Petit teasing au passage, voilà. Donc merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été de nouveau à l'écoute, ou pour la première fois sur Radio Campus, là où nous parlons ciné. Salut à tous, et à la semaine prochaine. Ciao!